Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume tout ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo. Je suis Patrick Béja, nous sommes en février, c'est l'épisode 174 et nous allons avoir un programme absolument incroyable avec un Nintendo Direct qui nous sort d'une disette insupportable, des jeux auxquels on a joué ces derniers jours, avec notamment le jeu que j'attendais le plus de ces 10 dernières années, possiblement, même 20, même si le jeu, bon bref, vous allez voir. Il y a aussi des infos intéressantes du côté de Nvidia et du DLSS, de Microsoft qui fait avancer son xCloud. Et on va parler de tout ça. Avant, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui permettent à cette émission d'exister en la soutenant sur Patreon, notamment Michael Aubigny, Yann Menez, Loïc Lacombe, Jérôme Perret, Fabien Schnours et évidemment le producteur Chulrac qui, une fois encore, vient à la rescousse de l'émission en produisant tout simplement parce qu'il est une des personnes qui soutient l'émission de manière encore plus substantielle. Donc on le remercie tous les mois. Et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir sur patreon.com/rdvjeux. Pour parler de tous les sujets qu'on a aujourd'hui et notamment de ce Nintendo Direct exceptionnel, inoubliable, on a avec nous Daniel Charby, alias Dany. Comment ça va, Dany ?
Super, très content d'être ici pour un super nouveau rendez-vous jeu et un Nintendo Direct absolument incroyable.
on disait avant l'émission que j'ai du mal à t'appeler Daniel, que ça fait un petit peu comme si je t'appelais Monsieur Charby, et c'est vrai que c'est compliqué, mais peut-être que je devrais, parce que étant donné que tu as, il y a bien longtemps dans ta lointaine jeunesse, travaillé chez Nintendo, tu as pour l'épisode d'aujourd'hui une légitimité absolument indéniable.
Inouï, parce que bon, ça s'est pas passé il y a plus de 20 ans.
C'était il y a bien longtemps, c'est vrai. Et on a également, qui se joint encore une fois à nous pour cette émission, Julie Jorniot de Riot. Comment ça va, Julie ?
Salut, ça va super. Merci encore de m'avoir invitée. C'est avec plaisir que je suis là.
Eh bien, écoute, c'est un plaisir partagé, d'autant plus que tu nous disais avant de lancer l'émission que tu es encore sur Animal Crossing. Et du coup, tu vas attendre les objets Mario qui ont été annoncés pendant le Nintendo Direct avec impatience.
Peut-être pas, ça dépend.
Bon, on va voir de quoi il s'agit. C'est vrai que toi, t'es entre Animal Crossing et League of Legends, ton cœur balance. On verra s'il y a des jeux qui peuvent parler à tes sensibilités qui ont été annoncés. On va voir ça. Bah, je vous propose qu'on se lance tout de suite. Vous avez regardé les notes de l'émission, donc vous savez combien de temps ça faisait qu'il n'y avait pas eu de Nintendo Direct. Mais si vous aviez dû essayer de deviner qu'il n'y avait pas eu de vrai Nintendo Direct, vous m'auriez dit combien de semaines, combien de mois ?
Moi, j'aurais dit un an à la louche.
C'est ça, hein ? C'est ce qu'on pense. On se dit, c'est pas possible qu'en 2020, il n'y ait pas eu du tout de Nintendo Direct. Enfin, de vrai, hein, parce qu'il y a eu des Nintendo Direct mini, mais ceux-là, ils comptent pas. En fait, ça faisait 530 jours. Donc, forcément, les attentes étaient monumentales. Il y a même un compte Twitter qui s'appelle Days Since the Last Nintendo Direct qui compte le nombre de jours. C'est très drôle. C'est vrai que les attentes étaient quand même élevées. En plus, le Nintendo Direct en question faisait 50 minutes, ils ont annoncé. Donc on s'est dit, mais 50 minutes, ça va être fou. Je vais vous poser la question à tous les deux tout de suite. Est-ce que vous l'avez trouvé cool ou moyen ou décevant, ce Nintendo Direct ? Histoire de polariser tout de suite la conversation, de bien énerver les gens dans le chat et ailleurs, et de, vous voyez, de faire monter les émotions. Dany, toi, tu l'as trouvé génial, j'en suis sûr.
Ah bah, sublimissime et incroyable, mais objectivement, je pense que après, tu vois, si on m'avait dit, bon, il n'y en a pas eu depuis 3 mois, j'aurais dit, bon, pas mal, ça va, c'est correct, tu vois. Mais après 530 jours, je pense que t'étais en droit de t'attendre à un feu d'artifice, un florilège, une explosion d'annonces. Et moi, mon ressenti, mais on en parlera sans doute après, c'est que il y a beaucoup d'adaptations sur Switch ou de conversions, disons, de jeux qui existent déjà sur d'autres plateformes et que les annonces exclusives à Switch, finalement, sont assez décevantes ou légères.
Ouais. Assez limité. J'ai failli, je vais te dire, je vais pas l'appeler comme ça, mais j'ai failli appeler l'épisode Nintendo, la machine à recycler, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est vrai que c'est l'impression que je pense que je me serais attiré les foudres de certains auditeurs. Julie, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Nintendo Direct ?
Bah, je suis assez d'accord comme quoi il me manquait une petite étincelle, une petite surprise, quelque chose qui vraiment aurait déclenché une vague de hype. Après, j'ai pas non plus été déçue. J'ai trouvé que ça, les news agréables, je suis contente de ce que j'ai vu, mais en effet ça manquait de vraies surprises quoi. Et après autant de temps, on aurait pu s'attendre à quelque chose de plus impressionnant.
Il y avait beaucoup d'annonces.
Moi,
c'est vrai,
avoue,
mais il y avait pas. Ouais, vas-y Dani, il y a un truc qui frotte vraiment contre ton micro, je sais pas ce qui se passe. Tu t'es pas rasé,
attends,
tu disais
non, je me suis rasé justement en plus, donc c'est il y a pas de raison, c'est bizarre ça parce que j'utilise le même casque d'habitude en plus.
Bon,
mais en fait moi le truc que j'ai vraiment sur lequel j'étais très 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 déçu, c'est que j'attendais des nouvelles sur Metroid et rien, c'est mort.
Ça, c'est vrai que Metroid, moi je pense que ça aurait été un petit peu enthousiaste, enfin c'était un peu enthousiaste d'attendre des nouvelles dessus. Zelda Breath of the Wild 2 par contre, je crois qu'on était en droit d'attendre des nouvelles dessus et il n'y a pas eu du tout de nouvelles. Votre sentiment semble refléter un petit peu les réactions que j'ai vues sur les réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs demandé sur Twitter et sur Instagram si les gens l'avaient trouvé sympa ou décevant. On est quand même à 80% de déception et sur Instagram, on est à 72% de déception. C'est clair que c'est peut-être lié aux attentes dues au fait que ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu et qu'il était très long. Je pense que certains se disaient qu'il allait y avoir des choses plus substantielles. Bon, il y a quand même eu des annonces, hein, il faut être honnête. Il y a eu beaucoup d'annonces même, mais peu d'annonces énormes. Alors, résumons un petit peu ce qui s'y est passé. On a eu des nouveaux personnages, enfin un nouveau personnage pour Smash, évidemment. Pyra et Mithra de Xenoblade Chronicles 2. On avait aussi des annonces de plein de petits jeux. Bon, je vais faire les grosses d'abord. Donc, les personnages de Smash, c'est toujours un gros truc pour la communauté Smash. Il y a un nouveau Mario Golf qui est quand même un nouveau titre, hein, pour de vrai. Super Mario Golf Super Rush ou alors Mario Golf Super Rush. On pourra revenir dessus. On a également Skyward Sword, je vais y arriver parce que j'ai plein de notes et il y a plein de choses différentes. Skyward Sword HD, donc un remake, non pas un remake, un remaster de Skyward Sword qui en plus a des modes de manipulation différents. Vous vous souvenez, il était sorti sur Wii avec uniquement les motion controls. Là, on pourra manipuler à la manette uniquement aussi. Il y a aussi le teaser de Splatoon 3 qui est l'autre gros morceau qui était quand même vraiment un teaser très léger, donc on n'a pas appris grand-chose sur le jeu, qui semble peut-être avoir des éléments solo ou des éléments un petit peu différents des deux premiers Splatoon, mais qui a aussi, bien sûr, le mode classique de Splatoon, qui est du PVP compétitif. Donc on pourra revenir sur tout ça. Il y a du DLC pour Hyrule Warriors, l'ère du fléau, et puis des annonces plus modestes, comme Fall Guys qui arrive en été, Outer Wilds, l'un des meilleurs jeux de l'histoire, qui arrive en été, Samurai Warriors Sengoku Musou qui arrive en été, on a Neon White qui a l'air intéressant, on pourra voir ce que chacun a retenu, Project Triangle Strategy qui est un jeu de Square Enix en 2D HD, ce qu'ils appellent le 2D HD, c'est-à-dire le style graphique de Octopath Traveler, qui est un tactical RPG qui a, je pense, fait plaisir à beaucoup de monde et qui sort en 2022 et qui a une démo déjà disponible à laquelle j'ai un peu joué déjà, je me suis précipité dessus pour vous en parler, donc on pourra en parler aussi. J'ai aussi noté Apex Legends qui arrive le 9 mars, qui a l'air de tourner pas trop mal, hein, d'après ce qu'ils ont, les images qu'ils ont montrées, et plein d'autres petites choses. J'ai mentionné Neon White. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué particulièrement? Ah oui, il y a un jeu aussi Star Wars, Star Wars Hunters, qui nous ont montré un teaser. Ça a l'air d'être un TPS PVP, enfin d'après ce qu'on sait, en ligne, qui est aussi sur mobile, donc c'est Switch et mobile, pourquoi pas. Il y avait plein d'autres choses. Je suis sûr que, en fait, mon impression, c'est qu'il y avait plein de titres qui parlaient à des personnes spécifiques, mais peu qui réunissent un petit peu tout le monde. Je crois que si on est fan des jeux japonais, on est comblé. Mais Dani, il y a des choses que tu as retenues spécifiquement dans ces annonces?
Moi, il y a trois points. Hein. Donc, Project Triangle, peut-être. J'ai joué à Octopath Traveler. J'aime bien, en fait, le retour à la 2D, 3D des vieux Final Fantasy. Moi, ça me parle plus que les sortes de jeux d'action que c'est devenu. J'espère juste qu'au niveau scénario, écriture, ce sera moins lent, pénible que Octopath. Donc, on verra si c'est assez. C'est un jeu un peu plus immersif au niveau écriture, histoire, etc.
Écoute, le deuxième. Je sais pas si, à ce niveau-là, dans la démo que j'ai testée, je sais pas si c'est ce que tu espères, mais le début, il y a quand même un bon 15 minutes de lecture. C'est presque visual novel, mais c'est pas mal fait. Ouais. C'est assez captivant. C'est des trucs comme savent les
faire.
C'est
intéressant, d'accord.
Ouais, c'est faut aimer, hein, le genre. C'est genre. Tu sais, c'est ce style que font très bien les Japonais de royaume européen tel qu'ils les imaginent, eux, au Japon. Tu vois, c'est très Final Fantasy, effectivement, Final Fantasy Tactics. Il y a des noms à coucher dehors qui font genre « Ah oui, ça doit être européen ». Mais c'est pas mal, c'est très intrigue politique. Et on a des scènes, presque des scènes de cinématiques, mais qui sont juste les personnages qui se parlent entre eux, mais c'est vraiment de l'exposition. Bon, voilà, c'est faut aimer, quoi.
J'aime beaucoup les jeux de tactique, en fait. Donc, et graphiquement, ça me parle. Donc, faudra ensuite voir si l'histoire est sympa et tout. L'autre jeu, moi, la sorte d'ovni qui sort d'un peu nulle part, c'est le Famicom Detective Club. ça m'a interpellé. J'essaierai bien. Ouais,
Ok, c'est vraiment okay, c'est un visual novel d'enquête. Hein. C'est très spécial.
Je sais. Et j'aimerais essayer, en fait. Je pense que c'est au moins ça sort du lot. Par contre, grosse déception sur l'annonce Zelda Skyward Sword HD. Enfin, au vu de la vidéo qu'ils ont montrée, c'est quand même Enfin, je me souviens plus à quoi il ressemblait sur Wii, mais le HD, je crois que il est vraiment très très allégé, hein, le lissage HD, parce que c'est très très laid.
Ouais. Je trouve qu'il a assez mal vieilli. Ouais, on se souvient pas à quel point c'était moche, les jeux Wii, mais clairement ça c'est pas beau non plus, hein. Il y a des... Bon, si tu veux, ce qu'on voit de très très... on a très très peu d'éléments de la version Wii, et c'est quand même beaucoup plus moche. Je crois que c'est, comme souvent dans ce type de remake HD, tu te souviens en fait, quand tu vois le remake, tu dis « Ah bah ouais, c'est à ça que ça ressemblait ». Et quand tu vois le vrai, tu te rends compte que « Ah non, en fait, le vrai c'était très 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 moche ». Mais bon, clairement ça en fait pas un beau jeu. Et c'est un petit peu, comment dire, le mal-aimé de la série. Skyward Sword, je pense que c'est peut-être avec Majora's Mask, mais qui a maintenant un statut de légendaire un petit peu. Skyward Sword, je pense que c'est celui que les joueurs et les Nintendophiles aiment le moins. Et c'est vrai qu'il était particulier parce que ses contrôles étaient particuliers. Là, c'est peut-être l'occasion de le découvrir avec des contrôles à la manette. Je ne sais pas. Mais...
Ouais, je pense que moi, je connais plusieurs personnes qui ont joué et globalement, les contrôles à la manette étaient... disons perfectible, et sans doute un des détracteurs au plaisir de jeu qu'on peut éprouver. Ensuite, moi-même n'y ayant pas joué, je sais pas si c'est un Zelda bien mené, bien, ouais, bien construit par rapport aux autres, mais bon, en général, moi de toute façon, je suis plutôt fan des versions 2D du jeu que des versions 3D, donc de toute façon, celui-là il sera certainement pas pour moi.
Je crains un tout petit peu le fait que les contrôles et les combats, en fait, les rythmes de combat, la dynamique est prévue pour les contrôles au motion control, et que du coup ça fasse bizarre à la manette, que ça soit un peu plus lent, tu vois, que les ennemis se déplacent très lentement ou ce genre de choses. Je sais pas, on verra. Mais clairement, c'est pas... C'est marrant d'ailleurs parce que Aonuma disait en introduction... Alors, vous me voyez, vous savez sans doute... Vous pensez sans doute, ah, on va avoir des nouvelles de Breath of the Wild 2. Non, 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 ça arrivera plus tard dans l'année. Mais là, on va pas parler de Breath of the Wild 2. C'est bien qu'il l'ait dit, si tu veux. Mais ouais, c'était clairement pas la grosse annonce que les gens espéraient. Julie, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont intéressée parmi toutes ces annonces ?
Ouais, alors moi, il y a le Splatoon 3, mine de rien, qui m'intéresse quand même pas mal. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve très très fun. En plus, il y a du multi, c'est vraiment c'est ce que j'aime. Bon, par contre, 2022, j'ai l'impression que c'est un peu loin, quoi. Donc, je suis hypée, mais est-ce que je vais rester hypée jusqu'à 2022 ? Va falloir qu'ils me mettent des jolies vidéos pendant toute l'année. Ouais. Sinon, le crossover, on va dire Animal Crossing Mario, m'a intriguée. J'irai pas jusqu'à dire hypée parce que c'est un mélange qui moi, me semble, je suis une grande joueuse Animal Crossing. Et ça m'a semblé pas très naturel comme mix.
ça fait un peu bizarre. Hein.
Ouais, c'est peut-être parce que c'est des objets qui vont pas du tout sur mon île, peut-être. Par contre, il y a une nouvelle mécanique qui, du coup, est mise en avant par cette mise à jour, c'est le côté téléportation d'un point d'île à une autre où on rentre en fait dans les tubes de Mario et on peut se téléporter d'un point à un autre de l'île, et ça c'est incroyable parce que il n'y a jamais eu de téléportation sur Animal Crossing, et c'est assez pratique. Mais bon, sinon le reste, honnêtement, après je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire des sortes de mini-jeux sur leur île, donc ça va les éclater, mais moi ça m'intéresse pas plus que ça.
C'est vrai que ça fait bizarre de voir les personnages d'Animal Crossing en déguisement Mario. C'est un Mario en esthétique Animal Crossing. Ouais. Et c'est un peu bizarre, mais c'est rigolo.
Ouais, je trouve ça pas très naturel en fait. Je trouve que ça va pas trop au jeu, mais bon, pourquoi pas.
Ouais, j'ai l'impression qu'on est tous un petit peu dans la même ambiance. C'est genre, ouais, il y a des trucs sympas, il y a des trucs qui parlent à certains, mais bon, dans l'ensemble, c'est pas foufou. Quelques trucs que moi, je noterais aussi. Neon White, qui a l'air d'être... C'est un jeu qui est édité par Annapurna Interactive, ce qui fait genre les trois quarts de mon intérêt pour le jeu, mais c'est genre un FPS où on doit tuer des démons au paradis, qui a un look un petit peu bizarre. Je sais pas du tout si ça va être bien ou pas, mais on va dire que je vais garder un demi-œil dessus. Il y a aussi Samurai Warriors Sengoku Musou 5 qui est, bon, à la limite, Sengoku Musou, j'ai presque l'impression qu'on est plus intéressé par les crossovers, les Zelda et
le Persona, pas tout, le Persona.
Le Persona qui arrive, tout à fait, en Europe, Persona 5 Strikers, sur lequel tu vas te jeter. C'est quoi, c'est dans... Une semaine, deux semaines ?
La semaine prochaine, je crois. Ouais,
ouais, c'est ça. Donc, c'est ceux-là qui sont, je crois, plus intéressants encore. Mais bon, après, il y a toujours des fans. Mario Golf, mine de rien, il a l'air rigolo. Parce qu'il y a des modes. Alors, il y a un mode histoire avec des Mi, un mode histoire, pourquoi pas. Mais il y a aussi un mode où on joue genre à plein. Comment il s'appelle C'est le mode Speed Golf. Le mode Speed Golf où on joue tous en même temps sur le terrain de golf. Bon, ça, c'est marrant, tout le monde, il faut courir comme un fou pour aller à ta balle et sort. C'est une idée marrante pour un jeu de golf qui le rend plus dynamique. T'es tous en même temps sur le green et tu dois courir jusqu'à ta balle pour la mettre dans le trou plus vite que les autres. Je suis sûr qu'il y a des jeux qui ont déjà fait ça, mais ça a l'air original. Et puis, le Project Triangle qu'on a évoqué un petit peu tout à l'heure. Donc, j'ai fait la démo. C'est vraiment un jeu... tactical RPG comme on en connaît beaucoup. Il y a des trucs classiques, genre il faut se positionner correctement. Si on est plus haut, ça ajoute des dégâts. Si on est dans le dos, ça fait que la personne qui est devant peut taper une deuxième fois, etc., etc. Et il y a des questions de choix hyper importantes qui peuvent changer l'univers du jeu ou l'histoire. C'est des trucs qu'on dit maintenant, tous les deux jeux, il y a ce genre de choses, mais là, ça a l'air d'être vraiment important. Il y a trois valeurs principales dans le monde du jeu. Bon, là encore, c'est des trucs qui parleront aux fans de ce genre. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de jeux qui soient pour tout le monde dans ces annonces. C'est un petit peu l'enseignement, ou pas l'enseignement, mais la conclusion de ce, de ce direct. Je regarde dans la liste s'il n'y a pas d'autres choses. Oui, Splatoon 3, ça pourrait laisser penser qu'il y a d'autres choses que juste le mode PVP. Un mode solo, solide, ça pourrait être assez cool dans Splatoon, mais ce n'est pas le but du jeu. La sortie de Fall Guys, ça risque de le ramener sur le devant de la scène cet été, donc c'est assez sympa. Et puis, voilà, je crois que j'oublie rien. Certainement il y a des gens qui vont dire ah, mais t'as pas parlé de Ninja Gaiden Master Collection, ça c'est complètement fou. Il y a Ghost and Goblins qui sort pareil la semaine prochaine, sur lequel Danny va se jeter. C'est marrant, on en parle je crois à chaque fois que t'es là, il y a une nouvelle sur Ghost and Goblins.
Il n'y a pas vraiment de nouvelle, c'est juste qu'il sort la semaine prochaine. Je vais me jeter dessus.
C'est ça. Donc voilà, il y a un remake de c'est un Mana dont il y a un remake. Non, c'est pas un Secret of Mana, je sais même
plus. C'est Legend of Mana.
Voilà, c'est celui-là. Un remaster de Legend of Mana qui sort en juin. Bon, c'est pour tout le monde, le Hades en physique. Enfin bon, c'était des petites choses. Au final, j'ai été quand même assez déçu. J'espérais plus. Je dis pas qu'ils devaient annoncer la Nintendo Switch super, parce que clairement ça a l'air d'être leur nouvelle machine. Elle est pas au programme pour l'immédiat. Ça risque d'arriver un peu plus tard dans l'année, si elle arrive dans l'année. Mais bon, on espérait un truc pour les 35 ans de Zelda, quelques infos sur Breath of the Wild 2. Bon, voilà. On est déception, un petit peu déception. Je crois que c'est à peu près tout pour ce Nintendo Direct, mais puisqu'on est dans Nintendo, peut-être que je peux vous parler un petit peu de Super Mario 3D World, qui est sorti la semaine dernière avec Bowser's Fury. Est-ce que vous y avez joué tous les deux, ou c'est pas un jeu qui vous a intéressé?
Évidemment.
Ou attiré? Oui, ah, très bien.
Pas Denis, du tout. Vous savez.
Écoute, Julie, je suis clairement déçu, encore plus que pour le Nintendo Direct, mais Dani, je savais que je pouvais te faire confiance, donc tu sauves les meubles, ça va.
Bowser furieux, on ne pouvait pas rater un tel événement du jeu vidéo.
Disons que comme toi tu es naturellement furieux également, ça te correspond très très bien. Quand je jouais à Bowser's Fury, je t'imaginais en Bowser énervé contre moi.
Et donc tu n'as jamais passé le niveau 1, je suppose, alors, parce que c'est pas possible.
Écoute, j'ai fini Bowser's Fury. La quête principale dure seulement, on va dire, 4 heures, 5 heures, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup de ce nouveau mode, avant qu'on parle de 3D World?
Eh bah écoute, très très sympa. Je regrette juste une chose, en fait, c'est le mode de joueur est sympa, mais avec un écran splitté, ça aurait été quand même plus pratique. Parce que finalement, le deuxième joueur, des fois, tu le vois pas, tu sais pas où il est. Tu lui dis, vas-y, va me choper le machin, la tête de chat qui flotte et tout. Et c'est super dur parce que tu sais pas où il est, ton personnage. Mais sinon, globalement, il est quand même super sympa. C'est assez original pour un Mario. Et ça met beaucoup, beaucoup de pression, en fait, quand Bowser revient et qu'il est furieux. Ouais. Je trouve ça met un petit coup de stress. Il dit, oh, c'est l'enfer, on va tous mourir, et c'est super sympa.
C'est vrai que c'est un jeu qui est assez original, comme tu le disais, pour un Mario. C'est une approche presque open world, open world du Mario, avec en fait les différents niveaux qui sont différentes îles qui sont réparties dans un grand niveau comparable à un niveau de Mario Odyssey. Mais sur chaque, entre guillemets, petit niveau, chaque île, on a plusieurs astres félins à récupérer, les petits trucs qui vont éclairer le monde, et chacun est à récupérer avec un secret, un mystère différent qu'il faut résoudre. Et bon, c'est juste des petites épreuves qui utilisent les mécaniques du jeu, qui utilisent les mécaniques vraiment de 3D World. Mais en plus de ça, l'aspect Bowser qui, toutes les quelques minutes, va venir perturber le déroulement de votre jeu, donne l'impression vraiment qu'on est dans un monde qui existe en dehors de ce qu'on fait dans le niveau. Ça donne l'impression d'un monde vivant autour de nous. Et bon, comme je le dis, j'ai fait une review sur YouTube, vous savez où la trouver, youtube.com/notepatrick, et c'est ce que je dis là-dedans. évidemment, c'est pas non plus Red Dead Redemption 2, quoi. C'est pas Assassin's Creed. On n'est pas dans un vrai monde réaliste, monde ouvert. Mais par contre, c'est la première fois qu'on a ce genre de pression externe du monde qui n'est pas contrôlée par nous, qui joue un rôle dans le jeu. Et en plus de ça, comme pour 3D World, le jeu est hyper inventif, hyper mignon, hyper bien réalisé. Et le fait de pouvoir aller picorer d'une île à l'autre, quand on est un peu coincé dans un truc, on va aller en chercher sur une autre île. On a en plus les modes de déplacement avec le dinosaure Plessis qui nous permet de nous déplacer d'une île à l'autre, mais de manière super fun parce qu'on a des trucs à faire avec le dinosaure également. Enfin, c'est le plus proche qu'on ait eu d'un Super Mario Open World, et c'est vraiment, je trouve, vraiment réussi. D'une manière très originale et engageante, en fait. On dit en anglais « engaging ». Donc, c'est quelque chose de vraiment, vraiment fun. Moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir.
Je le préfère nettement au Mario qui était sorti l'année dernière, par exemple, ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus, mais je m'amuse beaucoup
Odyssey,
plus, en fait. Odyssey, ouais, Odyssey.
Ah oui, c'est il y a 4 ans déjà, Odyssey. Hein.
Non, arrête.
Ouais, ouais, 2017.
Mais mince. Ok, j'ai pris un coup de vieux, là. Mais
attends, tu veux le pire coup de vieux? Le pire coup de vieux, c'est, on en parlait dans l'after show la semaine dernière, Mario 3D World, c'était 8 ans. C'est il y a 8 ans qu'il est sorti sur Wii U. Donc, voilà.
Oh, oh. Pour moi, c'est il y a 4-5 ans, tu vois.
Mais c'est ça, exactement. Mais pardon, oui, okay, donc tu le préfères à Odyssey, ouais.
Je le préfère nettement à Odyssey, et je trouve qu'ils ont réussi cette fois la création d'un sort de simili, un mini open world, vraiment sympa, riche, amusant, et ça laisse envisager en fait un futur Mario en vrai open world cette fois, avec un potentiel énorme de fun et tellement différent de ce qui existe en open world sur tous les autres jeux.
C'est marrant parce qu'il y a même les tours auxquelles tu peux monter comme dans Assassin's Creed pour regarder si t'as pas raté un truc, s'il y a un truc au loin, mais ça fonctionne vraiment, ouais. Bon, je pense qu'on est d'accord pour dire que le mode Bowser's Fury, qui peut être commencé complètement indépendamment de 3D World, bah c'est une vraie réussite. Et ensuite, il y a 3D World qui est... vous le savez, dans l'émission, j'en parle depuis à peu près le début de l'émission et encore plus depuis la sortie de la Switch et depuis qu'ils font des remakes de tous les jeux Wii U, auquel personne n'a joué parce que personne n'avait de Wii U. Je dis à chaque fois, je crois à chaque fois que j'ai mentionné le nom de la Nintendo Switch, je disais « Oh, mais 3D World, c'est tellement bien, c'est trop cool !» Eh ben, j'en ai encore une fois la preuve. Je pense que c'est possiblement le meilleur jeu Mario jamais créé.
J'allais dire que depuis Super Mario World sur Super NES, pour moi, c'est le meilleur Mario auquel j'ai joué. Et
c'est vrai.
Les deux, pour moi, sont tellement novateurs et ont tellement apporté à Mario que, ouais, voilà, c'est mon top 2.
Il est dans cette catégorie.
Alors.
Ah, mais il faut.
Oh, il est fantastique.
Je commence à. Tu vois, tu reviens dans mes bonnes grâces, là, un petit peu. Non, mais. C'est vrai que c'est une approche qui est, on le sait, je pense, entre la 2D et la 3D. C'est vraiment une philosophie de Mario 2D, c'est-à-dire un niveau avec un début et une fin, un parcours linéaire, mais représenté en 3D avec un petit peu de liberté de mouvement, un petit peu de liberté de caméra, mais avec tellement d'inventivité et tellement de génie dans les mécaniques, et chaque niveau, un petit peu comme dans Odyssey, qui est pour moi clairement un chef-d'œuvre, hein, Odyssey également, mais on a à chaque niveau, tous les 2-3 niveaux, des nouvelles mécaniques qui nous enchantent. C'est enchanteur, ce jeu, à un point qu'on a rarement vu. En fait, dans les autres Mario, souvent les Mario en 3D, on a une mécanique et ils font des variations sur cette mécanique, même si, bien sûr, il y a beaucoup d'inventivité aussi dans ces autres jeux. Mais là, c'est presque un nouveau, une mécanique qui pourrait être un monde entier dans le Mario 3D World. Et là, ils en font juste un ou deux niveaux. Ils vont le ramener plus tard avec une petite variation. Mais chacune est parfaitement réussie, parfaitement calibrée, hyper fun. Et oui, on est pour moi... D'ailleurs, c'est clairement un parallèle avec Mario 3D World. Vous vous souvenez qu'il y avait Mario, Super Mario Land sur Game Boy et Super Mario 3D Land sur 3DS, qui est sorti, je crois, 2 ans avant Super Mario 3D World. Donc, c'est vraiment une... Il y a un parallèle à faire là. Et il est au niveau de Mario, de Super Mario World, qui est évidemment la référence, même s'il est très, très vieux aujourd'hui. Non, c'est une merveille. Et je ne veux pas vous gâcher les surprises des niveaux et des mécaniques, mais c'est enchanteur. C'est enchanteur. J'ai envie d'y jouer tout le temps parce que j'ai envie, ça fait plaisir, quoi. Il est beau.
Et on peut jouer à 4 en plus, hein. C'est, ouais. C'est aussi pour moi, enfin, moi, j'ai jamais joué à plus de 2, mais déjà à 2, c'est super sympa. Et de pouvoir te dire finalement, bah, t'as un jeu coopératif de plateforme en multi. En local, bah, je crois que c'est le seul. Enfin, je me souviens pas d'un autre jeu de ce type depuis Mathusalem.
Et Mathusalem, on sait bien qu'il n'est pas sorti sur Switch, donc c'est...
Bah, il sera bientôt adapté sur le prochain Nintendo Direct, hein, ça, il y aura une version HD, hein.
Oui, jouer à plusieurs, j'ai joué avec mon fils et j'ai un regard totalement différent sur les Mario depuis que j'ai un enfant. Il adore le jeu, il a très peur des méchants, j'en parlais à l'épisode précédent, mais là il y a le Tanuki blanc. Quand tu meurs 5 fois dans un niveau, tu peux avoir le costume de Tanuki blanc. Et du coup, avec le costume de Tanuki blanc, là, petit à petit, au bout de 10 fois ou 15 fois qu'on a recommencé, il s'est dit « Ah, ok, avec le Tanuki blanc, je peux aller taper les méchants !» Et il ne veut pas taper les méchants tout de suite, il veut quand même que je tape les deux premiers. Mais après, il accepte de prendre le costume, bah, d'abord le costume de chat, puis le costume de Tanuki blanc. Et avec le costume de Tanuki blanc, il a réussi à aller à la fin du premier niveau. Il a 3 ans, hein. Bon, un peu plus de 3 ans maintenant. Il a réussi à arriver à la fin du premier niveau et à monter au truc du drapeau, comment ça s'appelle ? Flagpole, bref, au drapeau, et à finir le niveau hier. J'étais tellement fier. Ma fierté de papa de vidéo, joueur de jeux vidéo, était à son comble. Mais oui, c'était super sympa. Et ce qui est vraiment cool, c'est que tu peux tout faire et lui, il a juste besoin de te suivre de manière très approximative parce que bien sûr, il ne maîtrise pas très bien les contrôles. Mais tu peux tout faire dans les jeux Mario pour le deuxième joueur, surtout dans ces jeux-là où les deux font la même chose. Ça ne serait pas tout à fait la même chose dans Bowser's Fury, auquel on ne joue pas d'ailleurs parce qu'il a peur des petits Goombas dans 3D World. Vous imaginez bien que Bowser qui arrive en Godzilla tout noir et qui va cracher du feu partout, ça va lui faire encore plus peur. Mais donc, c'est un vrai plaisir, même pour les plus jeunes, quoi. Et c'est une des qualités des jeux de Nintendo. Et c'est un truc, on reste dans le premier niveau. On a joué plusieurs fois juste dans le premier niveau. Il restait même dans la toute première zone, genre les premiers endroits. Il court, il est super content. C'est super cool. Bref, voilà. Je crois que ça va être tout pour notre partie Nintendo. On va parler d'autres jeux auxquels vous avez joué tous les deux. Mais avant ça, je voudrais dire 2 mots sur le Patreon. Vous savez que l'émission est soutenue sur Patreon. Oui, une chose avant même de parler de Patreon, si vous pouviez, s'il vous plaît, mettre des commentaires sur iTunes, ça serait super sympa si vous appréciez l'émission. Si vous pouvez mettre des notes et des commentaires sur iTunes, ou sur n'importe quelle autre application de podcast, catalogue de podcast que vous utilisez, Spotify, Google Podcasts, etc. Ça serait super gentil. C'est important pour les gens qui découvrent les podcasts et c'est très difficile de découvrir des podcasts. Donc, le fait d'avoir des commentaires, bah, surtout s'ils sont positifs, hein, si vous m'aimez bien, c'est important pour les gens qui vont essayer de découvrir les podcasts. Donc, un grand merci. Si vous pouvez mettre des commentaires, ça serait très cool. Et encore plus que ça, si vous pouvez, si vous voulez soutenir l'émission, si vous l'appréciez, si vous pensez qu'on fait un bon boulot, si on dit assez de bien de Nintendo ou de mal, hein, en fonction de vos préférences. Non, je plaisante, mais si vous appréciez la manière dont on traite l'info, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux et avoir des bonus super cool, comme bah, les émissions sans pub, sans cette petite partie promo au milieu. Vous avez aussi des time codes pour passer d'un moment à l'autre de l'émission s'il y a des choses qui vous intéressent plus ou moins. Vous avez les parties after show quand vous êtes patriote, que vous pouvez écouter, où on discute avec la communauté. Vous avez aussi, enfin, il y a plein de choses, des contenus bonus, des éditos pour voir comment ça se passe de mon côté, de l'autre côté du micro, mes angoisses professionnelles. Il y a vraiment plein de bonus super cool. Et en plus de ça, vous avez la satisfaction, le plaisir, j'espère, hein, de soutenir un contenu que vous appréciez. Tout ça, c'est sur patreon.com/rdvtech. Vous pouvez y aller tout de suite depuis votre mobile. Ou alors, vous pouvez y aller quand vous rentrez à la maison, quand vous mettez les clés dans le bol. Comme je dis toujours, ça fait cling. Et là, vous vous dites « Ah, Patrick !» Et comme on dit dans la chatroom, ça fait aussi retour de l'être aimé, protection contre le mal, débugage des ordinateurs, suppression des virus, protection contre le Covid. Non, il ne faudrait pas présenter avec ça parce qu'il y a des gens qui le font vraiment. Bref, patreon.com/rdvtech, ça rend la vie meilleure, ça rend les gens beaux et intelligents. Et tout le monde, hein, pas que vous, les gens autour de vous seront beaux et intelligents en plus de ça. Donc, c'est franchement un service public que de soutenir le rendez-vous jeu sur patreon.com/rdvjeu et pas rdvtech comme je viens de le dire. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà l'émission, vous êtes la raison pour laquelle elle existe.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Alors, deuxième partie et les jeux auxquels vous jouez en ce moment. Julie, est-ce qu'il y a des jeux qui peuplent encore ton quotidien de joueuse ces jours-ci ?
Alors, moi, il faut savoir que je change de jeu auquel je joue le plus tous les mois. Donc, ce mois-ci, c'est vraiment c'est Civilization. Pour le coup, c'est vraiment un jeu auquel je joue depuis des années, des années et des années. Et le Civ 6, qui à la base me plaisait beaucoup moins que le 5, finalement, avec toutes les extensions qu'il y a eu, les nouveaux modes de jeu, est devenu tellement poussé que je trouve ça juste incroyable d'y jouer.
C'est la version. Il n'y a pas une version qui est. Non, je me trompe. Je pensais qu'il y avait une version qui était ressortie. C'est juste Civ 6 comme il est sorti il y a quelques années.
Ouais, mais il y a eu une extension qui est sortie il n'y a pas longtemps avec en gros, il y a des sortes de petits modes de jeu. Et là, il y a eu un mode de jeu qui crée des ressources et on peut avoir des monopoles de ressources. Donc, ça joue encore plus sur tout ce qui est économie et bonus de la civilisation. Donc, c'est vraiment un jeu qui maintenant est hyper complet. Et pour ceux qui aiment les jeux de gestion, pour moi, c'est un des meilleurs.
Est-ce que c'est un jeu qui était qui était décevant à la sortie et qui s'est amélioré avec les patchs et les extensions, ou est-ce que tu l'as découvert ou redécouvert peut-être quand tu lui as laissé un petit peu plus sa chance?
Alors moi, il m'a un peu déçu à la sortie, mais c'est peut-être aussi parce que de tous les Civ auxquels j'ai joué, j'avais toujours acheté toutes les extensions et les DLC. Donc au bout d'un moment, quand on arrive à la fin d'un jeu mais qu'on avait tous les DLC et qu'on arrive sur la version d'après qui a encore zéro DLC, ça semble un peu vide en contenu. Mais finalement, ça s'alimente très 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 vite. Mais c'est vrai qu'il m'a fallu quand même un peu de temps pour vraiment bien apprécier à fond le 6.
Écoute, je suis content qu'il ait sa chance. Et du coup, tu me disais que tu joues aussi à Animal Crossing. Tu fais partie des gens qui ne se sont pas arrêtés.
C'est ça. Animal Crossing, pour moi, c'est un peu le petit jeu détente quand j'en ai un peu marre de jouer en ligne. Je joue énormément aux jeux en ligne, mais ça prend émotionnellement.
Oui, on disait à League of Legends, bien sûr.
C'est ça, énormément, ouais.
Pour le plaisir et pour le boulot. Et du coup, ouais, Animal Crossing, c'est le.
C'est ça, c'est un petit peu le jeu plaisir, détente. Quoi. Et en plus, avec la situation actuelle, moi, je suis toujours en télétravail. Il y avait mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Et en fait, mes amis m'ont organisé une soirée d'anniversaire sur Animal Crossing. Et c'était juste génial, en fait. Et toutes les choses qu'on peut faire avec ce jeu, je trouve ça vraiment incroyable, les interactions qu'il y a avec les amis, les habitants, etc. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui, je pense, je vais continuer à y jouer, j'arrêterai jamais.
Du coup, je vais te poser une question. J'ai jamais joué à Animal Crossing. Enfin, j'ai essayé quatre fois et c'est pas pour moi. Et du coup, je me demande comment ça se passe un truc comme ça. Éclaire-nous pour les gens qui n'ont pas vraiment de familiarité avec le jeu. Un truc comme ça, genre, on fait un anniversaire dans le jeu. C'est une personne qui a son île et qui invite tout le monde et donc on se balade sur l'île. Ça se passe comment ?
Bah, en fait, ouais, faut avoir beaucoup d'imagination. Et en gros, en effet, on s'est invités mutuellement sur les îles. Et en fait, j'avais des amis qui avaient organisé des mini-jeux sur leurs îles. Donc, j'avais une amie qui avait fait un labyrinthe avec des récompenses à la fin. J'en avais un autre qui avait fait un cache-cache, en fait, un cache-cache géant sur l'île. Pareil, avec des récompenses. Donc, c'est vraiment transformer son île pour créer un jeu un peu parallèle à Animal Crossing, quoi.
D'accord, donc tu utilises les mécaniques qui, j'imagine, sont un petit peu limitées quand même de gameplay dans Animal Crossing pour inventer des choses à y faire, quoi, des activités à y faire.
C'est ça. Bah, en fait, le terraforming est quand même assez poussé dans le jeu. Et on peut vraiment modifier l'île comme on veut. Il y a plein d'objets différents. Donc finalement, c'est assez facile de transformer l'île. Et il y a des personnes, quand on regarde sur YouTube, il y a des personnes qui ont fait des mini-jeux incroyables sur leurs îles.
C'est pas Minecraft quand même. Est-ce qu'il y a des objets interactifs ou c'est vraiment juste la géographie de l'île que tu peux changer ou est-ce qu'il y a des choses genre t'appuies sur un truc, ça fait quelque chose ailleurs ou...
Non, c'est ça. Alors, je suis une grande joueuse de Minecraft aussi, donc je veux bien faire la comparaison. c'est beaucoup plus simple que Minecraft, on va dire. Il n'y a pas vraiment d'interaction avec les objets. C'est plus décoratif. Donc, il faut réussir à jouer avec ça en fait.
Ok. Et du coup, j'imagine que l'anniversaire en confinement télétravail, c'était un petit peu morose. Mais du coup, ils t'ont, avec tes amis, vous avez quand même passé un bon moment. Vous aviez le chat, je sais pas, sur un Discord ou sur un truc à côté, j'imagine.
C'est ça. Ouais. C'était vachement sympa. Et il y a une anecdote très drôle. Une de mes amies s'était déguisée son petit personnage en saucisse. Et le lendemain matin, quand elle a relancé le jeu, elle a eu son personnage qui est sorti en saucisse de la maison et elle avait l'impression un peu d'être dans un lendemain de soirée, dans les vapes, de s'être réveillée encore dans son déguisement. Donc, voilà, assez marrant.
Ah, c'est pas mal ça.
Le roleplay à fond.
Le roleplay à fond, très bien. Ok, très très cool. C'est une insight dans Animal Crossing que je ne connaissais pas vraiment. Merci beaucoup. Et Dani, toi, à part tes longues soirées sur Animal Crossing en saucisse, à quoi tu joues en ce moment ?
Eh bien, écoute, donc, à part la furie de Bowser furieux, je joue à Monstrum Nox, à Is9. Pourquoi ? J'ai joué à tous les Is avant, donc c'est un peu une sorte de longue tradition pour moi. J'ai fait peut-être, une 10-12 heures dans le jeu. Il est assez proche de ce qui s'est fait avant, donc il n'y a pas grand chose de révolutionnaire. Ça reste une formule sympa, même si j'ai préféré le 8. Donc si jamais quelqu'un devait faire un jour une incursion dans le monde de Is, donc Is 8 à mon avis est plus fun et rythmé. Pour l'instant Is 9 c'est beaucoup beaucoup de dialogue, c'est très très lent, c'est pas très joli, le gameplay est fun et agréable, mais il est moins... Disons que c'est plus difficile de s'y plonger dès le début.
Pour ceux qui ne connaissent pas...
Tu le montres, la source.
Ouais, c'est une série absolument vénérable de RPG qui date de la NEC. Donc, ça fait quoi, 30 ans ? J'ose à peine le dire.
Ça date de la Master System, même avant.
Ah ouais, donc voilà.
C'est pour te dire. Et les PC japonais.
Donc on est on joue systématiquement le rôle de Adol qui est perdu sur une île et super original, il a perdu la mémoire et à chaque fois c'est une histoire différente et c'est un RPG et qui sont devenus des RPG d'action. Non, c'était déjà action en fait à l'époque. Je m'en souviens plus très bien.
Oui. À l'époque en fait dans les premiers tu avais ton petit personnage, fallait foncer dans les mobs dans les ennemis pour les tuer. C'est tout, il y avait pas de bouton d'action ou quoi que ce soit. Et ensuite je crois que c'est peut-être arrivé vers le 3, 4 ou 5, ça a commencé à switcher vers une sorte d'action RPG et maintenant donc en fait c'est un action RPG dans lequel tu peux contrôler plusieurs personnages un peu comme tu pourrais le faire par exemple dans Final Fantasy VII Remake.
Ouais, c'est ça exactement. Et donc, tu peux switcher entre les personnages. Et il y a une démo d'ailleurs sur Switch, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. Clairement, ce n'est pas le meilleur jeu de l'histoire, mais ça va plaire là encore à certains joueurs. Et ce qui m'avait plu, moi, dans la démo, c'était le fait que les personnages avaient des mécaniques vraiment différentes entre eux et que c'était assez dynamique. Les combats avaient l'air sympas. C'est la première fois qu'on a trois personnages entre lesquels on peut switcher ou c'est arrivé dans la série ?
Non, ça date depuis le 7, hein, il me semble.
Ok, d'accord. Mais donc, tu dis le 8, qui, je crois, est présent sur Switch aussi, est plus réussi.
Pour l'instant, on va ensuite, bon, c'est des jeux qui sont très longs, mais oui, je pense que moi, le 8 m'a plus amusé. Tu arrives sur une île déserte avec des naufragés, il faut les retrouver, il faut récupérer ta mémoire et tout ton stuff qui a été disséminé sur l'île. Voilà, bon, c'est pas un modèle d'originalité, mais au niveau du gameplay, en tout cas, c'est des jeux qui sont assez nerveux et fun.
Très bien, oui, ça nous replonge dans des... Comment dire ? C'est... Quand on dit le nom, il y a quelques séries comme ça, comme Is ou, je ne sais pas, des jeux de combat pareil, qui, King of Fighters, moi, ça me replonge dans un monde très ancien qui me fait toujours quelque chose, quoi, même si je n'ai pas joué à des Is depuis bien longtemps. Un petit mot sur Valheim, demande-t-on dans la chatroom. J'en ai parlé la semaine dernière, j'y ai pas beaucoup rejoué, mais ça reste... En fait, j'ai un peu plus compris pourquoi il a tellement de succès, Valheim. C'est que vraiment, c'est un survival qui n'est pas agressif. C'est un jeu PC qui est vraiment pour les joueurs PC. On peut jouer à plusieurs et c'est sympa de jouer à plusieurs, mais surtout, c'est pas un jeu qui est stressant parce que tous les jeux de survie qui existent jusqu'à maintenant, tous les H1Z1, les Rust, ces jeux-là, c'est vraiment, tu meurs tout le temps, l'environnement te détruit en deux secondes. Là, c'est le même genre, c'est-à-dire survie, mais beaucoup plus bienveillant. Et c'est du coup quelque chose qui, je comprends le succès du truc, même si c'est toujours aussi complexe, c'est toujours aussi long, il y a quand même cette bienveillance, c'est peut-être un petit peu fort comme terme, mais il y a cette idée qu'on est tous ensemble et qu'on peut y arriver, et c'est pas déprimant comme ça peut l'être dans les autres jeux du genre, donc c'est ce que je dirais sur Valheim à ce stade. On a plein d'autres petites news à couvrir. J'aimerais, je ne sais pas si Julie, toi, tu aimes spéculer sur ce que va dire ou faire Blizzard dans les jours et les mois à venir, mais il y a la BlizzCon qui arrive. Dani, je suis sûr que toi, tu as ton idée là-dessus. La BlizzCon Online qui arrive dans quelques jours maintenant, samedi. On va voir si je pourrais faire un stream. Je vais me coucher tard, peut-être, spécifiquement pour ça, pour suivre la série cérémonie d'ouverture, et peut-être que je ferai un stream, suivez mon compte Twitter pour voir ça, mais est-ce que vous avez des prévisions, vous voulez essayer d'imaginer ce qui va y être annoncé ou non ? Je ne sais pas si l'un des deux veut se lancer, peut-être
moi,
Julie, tu as l'air de...
Ouais, vas-y. Ouais, je suis une grande fan de Diablo. Et grande fan de jeux multi en général, donc Blizzard forcément j'aime beaucoup. Et pour le coup, j'en attends vraiment du prochain Diablo, donc j'espère qu'ils vont montrer plus de gameplay, qu'il va y avoir pas mal d'actu.
Tu veux dire Diablo Immortal ? Malheureusement.
Aïe, aïe, ça avait été un moment très difficile pour moi.
Ouais, pareil,
ça me fait encore mal au cœur.
Alors là, je suis totalement avec toi. S'ils montrent des trucs, des images ou du gameplay sur Diablo 4 qui disent voilà une date de sortie, même potentielle, c'est champagne.
Ça serait génial. Mais s'ils le font pas, honnêtement, s'il n'y a pas la date de sortie, je serais très très déçu.
Oh bah alors tu vas être déçu, hein. Date de sortie, moi j'y crois pas du tout.
Ah ouais. J'y crois pas non plus.
Pour Diablo 4, certainement pas. Par contre, je suis sûr qu'il y aura au moins une nouvelle classe et puis des nouveaux environnements, une update pour Diablo 4, c'est sûr. Et je ne serais pas si prompt à dismiss Diablo Immortal. Moi j'y ai joué, Dani, je crois que je t'en avais parlé, j'y ai joué pour la bêta technique il y a combien de temps ? 2 mois maintenant. et j'ai été très agréablement surpris, même si j'étais ouvert à l'idée. Franchement, je crois que le monde va être surpris de Diablo Immortal, et je crois que, même s'il ne sera pas pour tout le monde, bien sûr, les qualités du jeu sur mobile... toi, Julie, ça devrait te parler, parce que Wild Rift est très apprécié des joueurs qui, justement, sont surpris de la jouabilité. C'est la version mobile de League of Legends. On est un petit peu, je crois, dans le même type de translation. Et la qualité de Diablo est vraiment préservée dans le jeu en version mobile. Bon, après, il y a la question du business model qui se pose, mais...
Non, mais le jeu sera peut-être bon, hein. Il faudrait que je le teste et que j'y joue pour pouvoir donner mon opinion. Mais en fait, moi, le plus gros souci que je lui trouve, c'est qu'actuellement, on est confiné. Disons que mon temps de jeu, je risque plutôt de le passer soit sur la télé avec une console, soit sur mon PC. Et je me vois mal, en fait, dans les 3 prochains mois, de toute façon, avoir un mode de vie qui va changer fondamentalement. Donc même s'il sort demain et que c'est le meilleur jeu de la Terre, c'est bien, mais je risque pas d'y jouer des masses parce que la concurrence est forte chez moi.
Peut-être qu'ils vont attendre la fin. Vas-y Julie, pardon.
Pour les joueurs mobiles, je suis assez d'accord que je pense que ce sera un très très bon jeu. Moi je suis un peu pareil, je suis plutôt PC, console, pas vraiment mobile, mais ce qui m'avait surtout déçu, c'était la manière dont ça avait été annoncé. mais je doute pas de la qualité du jeu.
Ouais, on verra, hein. Je pense qu'on aura au moins une date de bêta pour Diablo Immortal, et on verra comment les gens reçoivent le jeu. Peut-être qu'ils vont attendre la fin du confinement pour débuter la bêta, mais par contre, ils ont annoncé qu'il n'y aura rien, pas de date, qu'ils ne sortiront pas en 2021, Diablo 4 et Overwatch 2. On avait un espoir pour Overwatch 2, clairement, il aura été déçu. Mais moi, j'espère une bêta pour Overwatch 2. J'espère qu'ils diront bêta cette année, comme ils avaient dit bêta l'année prochaine quand ils ont lancé Overwatch. C'était le quelques semaines après que j'ai quitté Blizzard, quand ils ont annoncé Overwatch. J'étais tout excité, donc ça me rappelle des bons souvenirs. J'espère qu'ils vont avoir plusieurs nouveaux personnages pour Overwatch 2, et puis peut-être aussi une refonte des systèmes de progression pour Overwatch 2, parce qu'on le sait, en PvE, c'est pas facile du tout de motiver les gens à continuer à jouer, et j'avais trouvé ce qu'ils avaient présenté à la BlizzCon précédente peut-être un peu faible à ce niveau, donc on verra ce que ça donne. Et puis après, il y a des rumeurs sur un jeu mobile Warcraft, peut-être un pet battle, une sorte de Pokémon battle pour en version mobile pour Warcraft. Ça, je pense que ça pourrait parler à certains. Quelqu'un avait évoqué aussi une sorte de match 3 en plaisantant, hein, un match 3 Warcraft. Mais vous savez quoi, un bon match 3 comment il s'appelle, Puzzle Quest de l'époque dans le monde de Warcraft, pourquoi pas. Il y aura peut-être des annonces de jeux mobiles, même si, comme tu l'évoquais, Julie, ils ont peut-être retenu les leçons de la BlizzCon où ils ont annoncé Diablo Immortal. On verra ce que ça donne. En gros, on n'attend pas vraiment de surprises, malheureusement. Enfin, pas de grosses surprises, quoi. Donc, moi, j'ai pas d'autres prévisions. On pourrait être complètement fou et se dire... qui vont annoncer, je ne sais pas, un système de streaming pour les jeux Blizzard. Il y a aussi des rumeurs sur un modèle free-to-play pour Overwatch 2, etc., etc. Mais bon, on détaillera ça quand on aura effectivement les annonces. Et puis, bien sûr, The Burning Crusade classique. Ça, Dany va se jeter dessus si classique...
j'ai arrêté classique. C'est à cause de classique que je suis retombé d'en haut, mais je préfère les extensions modernes qui... j'ai tellement fait Vanilla, classique, Votlek, sympa. Pour le moment, nostalgie, mais il y a pas grand-chose de nouveau.
Tu fais partie des gens qui, s'ils avaient été plus nombreux, m'auraient donné raison sur mes prédictions sur le succès de classique. Clairement, les gens comme toi n'étaient pas assez nombreux. Il y en a beaucoup qui y jouent encore. Bon, passons à la suite. Nvidia a annoncé que son système de DLSS allait être maintenant beaucoup plus facile à implémenter dans les jeux, puisqu'il serait intégré à l'Unreal Engine 4. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour la diffusion à grande échelle du DLSS. Je pense que vous savez ce que c'est le DLSS, hein. C'est un système qui permet de faire un un rendu des jeux en résolution réduite et puis d'upscaler la résolution du jeu en, par intelligence artificielle avec un résultat qui est vraiment surprenant et de vraiment grande qualité. Et malheureusement, il était très peu utilisé parce qu'il fallait que Nvidia aide les développeurs à l'implémenter jeu par jeu. Là, il va être inclus dans Unreal Engine 4, donc il devrait être beaucoup plus facile à utiliser et toutes les cartes RTX pourront en bénéficier. Donc ça, c'est plutôt cool pour l'avenir de cette technologie qui fluidifie beaucoup les jeux. Et on sait que AMD travaille aussi sur sa propre version qui n'est pas encore disponible. C'est important parce que AMD équipe les consoles next-gen, donc ça jouera pour ça. Et Microsoft est en train de tester en interne le xCloud sur le web. Pourquoi c'est important ? Parce que ça veut dire que quand ça sera validé, quand ça arrivera en bêta ou en alpha, enfin quand ça arrivera, ça sera disponible sur PC, le streaming de jeux, et sur iOS, un petit peu comme sur Stadia qui est déjà disponible sur iOS. Donc ça, c'est deux news un petit peu techniques, mais qui augurent de très belles choses pour les mois et les années à venir pour la jouabilité et l'utilisation de nos matériels. Et ah oui, et Microsoft a aussi annoncé un casque spécial. On s'est déconnecté du stream. Eh bien, reconnectons-nous. Vous êtes encore là ou c'est l'Internet qui a explosé ? Ah bah c'est l'Internet qui a explosé, on va faire pause. On est revenu, on a été déconnecté et je n'entendais plus personne. Mais heureusement, la magie de la connexion de la Finlande a fait que j'ai pu revenir. Je disais, Microsoft a annoncé un casque sans fil pour la Xbox. Voilà.
Oh, c'est incroyable, ça va changer fondamentalement notre expérience.
Bon, mais par contre, le DLSS et le xCloud sur le web, ça c'est cool. Non, vous vous en foutez. Ok, vous ne comprenez pas les choses importantes dans la vie. Il y a d'autres choses quand même qui ont été annoncées, comme par exemple le fait que Kingdom Hearts est arrivé sur l'Epic Game Store. Ça quand même, ça vous fait quelque chose. Bon, ça, à 60 oui. euros ah, le vrai, 60 euros le jeu.
Bah, je les achèterai pas parce que je les ai déjà tous faits sur PlayStation, mais je pense que ça va faire découvrir un excellent jeu à pas mal de monde.
Vous tout savez pareil. Quoi mais vous l'avez fait, vous les avez fait tous les deux ?
Tous,
ils
ouais.
sont trop bien, ils sont juste trop bien.
Mais je, alors, moi qui,
je mettrai un bémol, moquer. Le jeu est exceptionnel, moi, les jeux sont très très bons. Juste au niveau de l'histoire, c'est d'une complexité, je ne comprends rien. Et j'ai vu en fait des vidéos de YouTube de mecs qui essayaient d'expliquer ça, ça prenait des heures. Mais à part ça, vraiment très très bon.
Là, j'ai dû regarder ces vidéos-là. Ouais. J'adore vraiment ces jeux-là.
Écouté à la sortie du 3, j'ai écouté des résumés de l'histoire et j'avoue que j'ai été un petit peu décontenancé parce que ça va tellement dans tous les sens et ça a l'air intéressant. Mais ceci dit, j'ai vu grâce à l'article, je crois que c'était dans l'article de GameCult, que j'ai vu qu'il était disponible sur le PlayStation Store en promo à 27,50 au lieu des, je ne sais pas, 150 euros que ça coûterait. Et donc, pour une raison totalement incompréhensible, je suis allé l'acheter. Et du coup, je l'ai acheté. Je ne sais pas s'il est encore à ce prix. On va regarder, on va voir si on peut confirmer ou pas pour les auditeurs. Mais si vous êtes intéressé par le jeu, toute la série est à 27,50 en ce moment pendant encore une semaine. C'est confirmé. Donc, c'est Kingdom Hearts All-in-One. Il inclut ça inclut le 3, je crois que ça inclut le 3, hein. Et le 2, enfin je vais même pas essayer de dire les noms, si HD 1,5 plus 2,5 Remix, 2,8 Final Chapter Prologue, et Kingdom Hearts 3 plus Remind, et je crois que tout ça est inclus dans le All-in-One. Donc voilà. Et peut-être pas Melody of Memory, ou peut-être que ça inclut aussi Melody of Memory, le jeu de rythme. Mais bon, bref, si vous voulez du...
Non, il vient de sortir Melody of Memory, je doute qu'il soit déjà dans le pack.
Ouais. C'est juste le 1, le 2 et le 3, en gros, pour faire simple. Donc voilà, c'est arrivé sur l'Epic Game Store et c'est marrant parce que ça confirme, au-delà de la blague, ça confirme vraiment l'intérêt des développeurs pour le PC et l'exclusivité au moins temporaire qu'a réussi à attraper Epic, ça montre qu'ils ont un intérêt pour les jeux japonais aussi et que ça attire des gens. C'est vraiment, c'est plus à prouver, mais l'importance du PC au Japon est devenue, ou en tout cas, l'importance des joueurs PC pour les développeurs japonais, les joueurs PC étant, je pense, encore majoritairement occidentaux, ben, elle est devenue assez avérée. No Man's Sky a encore une update où on peut avoir des animaux de compagnie. C'est vraiment, je crois que c'est la rédemption la plus incroyable de l'histoire du jeu vidéo No Man's Sky. Il continue à faire des trucs, mais des trucs qui sont vraiment marrants, enthousiasmants pour les joueurs, alors que ça y est, ils ont ramené leur jeu à un niveau acceptable depuis bien longtemps, mais ils continuent. Et dans un style un tout petit peu différent, on a vu les infos pour le prochain personnage de Marvel's Avenger, Clint Barton, alias Hawkeye. Comment dire ?
Il a un design magnifique, hein. En tout cas, ça donne envie. Hein.
Bon, écoute, c'est pas... Enfin, bon, on peut critiquer les graphismes, c'est pas... Moi, ça me gêne pas vraiment, je le trouve pas mal, mais j'imagine être... les développeurs et devoir continuer à avoir l'air enthousiaste pour un jeu qui, je pense, aux dernières nouvelles, avait au mieux quelques centaines de joueurs en même temps sur Steam. Et encore, je pense que c'est généreux. Malgré, et j'en ai parlé, les qualités du système de combat, tous les autres défauts font que... Enfin, et ils continuent à faire des updates, et ils doivent, d'ailleurs, la version next-gen arrive avec le nouveau personnage, je crois que c'est le 18 avril, quelque chose comme ça, peu importe à la limite, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont réussir à nous faire une No Man's Sky et à retourner le truc ? Je sais pas, mais c'est... J'aimerais pas être dans les bottes des gens de Crystal Dynamics, quoi, maintenant, parce qu'il faut continuer
La question, c'est comment est-ce que tu fais revenir les gens déjà qui ont acheté le jeu, qui devraient être forcément ta cible la plus facile à faire revenir sur le jeu, comment est-ce que tu leur dis « venez, revenez sur le jeu maintenant, c'est super, il y a de quoi, il y a vachement plus de contenu, de trucs intéressants à faire, c'est plus fun, vous allez vous éclater ». Et à partir de là, il y aura effectivement le bouche à oreille, des opportunités pour faire venir d'autres gens. Mais est-ce que toi, tu aurais envie d'y rejouer avec Clint ?
Bah, j'y ai rejoué avec Kate Bishop, donc oui, mais j'ai joué une demi-heure, tu vois, une heure.
Oui.
Mais le système reste très bon. Le système de combat est excellent. Il y a des trucs assez sympas pour les fans de Marvel dans le truc de Clint avec Old Man Hawkeye, avec Maestro, avec des trucs de l'univers Marvel. Mais non, ce qu'il faudrait, c'est dans quelques, je sais pas, pour les un an du jeu, il faut une refonte beaucoup plus en profondeur du jeu. C'est pas juste des personnages. Il faut revoir le système de progression. Il faut revoir les mécaniques de jeu et de rejouabilité, même de tout simplement le level design, les ennemis, les niveaux. Tu vois, c'est un truc hyper hyper ambitieux pour revoir le jeu. Et s'il faisait ça. Et que il nous faisait, comme le dit quasiment à chaque épisode Cassim dans la chatroom, un Realm Reborn like. Oui, là, ça serait possible. Mais il faut refaire le jeu de fond en comble. Pas de fond en comble, mais il y a, je dirais, 60% du jeu qu'il faut revoir. Les fondamentaux de gameplay sont bons, mais tout ce qu'il y a autour, c'est à refaire. Et c'est un boulot monumental. Donc, je ne sais pas s'ils vont le faire. Je pense qu'il y a dans les bureaux de Crystal Dynamics et de Square Enix des discussions en ce moment pour se dire est-ce qu'on laisse tomber ou pas, mais en même temps c'est Avengers et... Enfin bon, bref, je sais pas, on verra.
Ah, c'est une méga grosse licence, hein. Ça aurait tellement de potentiel avec un bon contenu sur la durée, et arriver à un endgame qui plaise et qui fasse vivre le jeu.
C'est pour ça que je me dis, contrairement à Anthem, peut-être qu'ils veulent amener le jeu à un niveau qui soit beaucoup plus acceptable. Donc, on verra. J'imagine que c'est le genre de truc qui prend un an de boulot minimum. Donc, peut-être qu'on aura pour le 3 une annonce. On verra. Je continue un petit peu plus rapidement sur la suite. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Ratchet & Clank a une date de sortie le 11 juin. C'était censé être pour la fenêtre de sortie de la console. Bon, ils ont pris un petit peu retard. Je ne pense pas qu'on puisse encore dire que c'est la fenêtre de sortie. Mais au moins, ils peaufinent le jeu. Donc, ça, c'est une bonne chose. Toi, tu es très fan des Ratchet & Clank, d'après ce dont je me souviens, Dani ?
Très fan, non, mais j'aime bien et j'y jouerai sans doute avec plaisir.
Ouais, 80 euros. Ah non, mais c'est vrai que toi, tu ne les payes pas, tes jeux PlayStation.
Non, moi, je ne les paye pas, donc ça va. Il peut coûter 150 euros, pour moi, ça ne changera pas grand-chose. Mais 80 euros, je le prendrais... Si je devais le payer 80 euros, je pense que j'attendrais des soldes et qu'il passe genre à 30-40 euros, tu vois.
C'est ouais. Ça, ouais. Julie, 80 euros, Ratchet & Clank, c'est pour toi ou pas ?
Moi, malheureusement, non. Je suis vraiment très, très jeu multi et finalement, les jeux solo, je me lasse très vite. Alors du coup, je ne pense pas que ce soit quelque chose pour moi. Ouais.
Faut que ça soit un coup sûr. Bah écoute, il y a New World de Amazon qui n'abandonne pas. C'est le dernier jeu qui reste dans les écuries d'Amazon, en tout cas annoncé. Ils ont encore décalé la date de sortie. Il sortira à la fin août, mais ils continuent sur le jeu. On verra ce que ça donne. C'est un MMO et ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu un gros MMO qui devait arriver. On verra ce que ça donne. Et quand on parle de controverses, tiens, j'aimerais dire quelques mots sur Six Days in Fallujah, qui est un jeu qui était censé sortir il y a plusieurs années et qui a été abandonné. Il était censé sortir en 2009. Il a été abandonné parce que c'était évidemment un jeu assez controversé. C'est un jeu qui devait reproduire, réimaginer un combat dans la ville de Fallujah, pour le siège de Fallujah, pendant la Deuxième Guerre du Golfe en 2004. Et évidemment, c'était un sujet hyper touchy, hyper épineux, et le jeu a été abandonné. Là, il ressort par une partie de l'équipe qu'il avait créée à l'époque. Il avait été abandonné parce qu'il y a eu la controverse, les gens qui disaient « Non, on ne peut pas faire un jeu de ça. » L'éditeur Konami l'avait lâché. Là, ils vont le sortir eux-mêmes. Je ne me souviens plus du nom du nouveau studio, mais c'est vraiment le même jeu. Et il y a eu pas mal de controverses autour, encore une fois, là, avec l'annonce. Et en plus, visiblement, le président de la nouvelle boîte a dit des trucs qui sont... Moi, j'ai pas vu ça spécifiquement, mais... C'est, en fait, la grande question, c'est est-ce qu'on a le droit, c'est même pas ça, mais est-ce qu'on devrait faire ce genre de choses ? Mais de tout ce que j'ai vu... des intentions du jeu, alors après on verra de quoi il en retourne véritablement, mais l'idée n'est pas de faire un Call of Duty, l'idée est de plonger les joueurs dans la réalité de ce qu'était ce combat, et ils ont travaillé, enfin c'est ce qu'ils disent en tout cas, hein, c'est peut-être leur matériel marketing, mais ils disent qu'ils ont travaillé avec des vétérans de cette guerre-là, avec des locaux dans la guerre, ils ne vont pas vous mettre dans les bottes de l'armée américaine, mais dans les bottes d'autres membres de la coalition, et il y a une approche qui est, j'ai l'impression, presque documentaire, qui se trouve être en jeu vidéo, pour vous montrer comment ça se passe dans la réalité d'une manière qu'on ne peut pas faire quand c'est juste un documentaire ou un film. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres controverses. J'ai cherché un petit peu. Hein, il y a beaucoup de gens qui sont énervés, mais je n'ai pas trouvé vraiment les controverses au-delà du fait que certains disent non, il ne faudrait pas parce que c'est de la propagande et c'était une guerre illégale et c'est de la... Comment dire ? Ça... enjolive la guerre et ça veut vendre la guerre aux joueurs, en fait. Et oui, effectivement, si c'est ça, bah, c'est problématique, mais d'une part, on a des jeux comme Call of Duty qui montrent des événements réels ou presque réels de manière clairement arcadifiée et la guerre de manière clairement arcadifiée. Je pense qu'on l'accepte aujourd'hui, même si on peut le critiquer et on n'est pas en train de dire qu'il ne devrait jamais y avoir de Call of Duty. Et d'autre part, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est Saving Private Ryan, par exemple, qui a montré l'horreur du débarquement d'une partie du débarquement en particulier. Mais je sais pas, moi, je trouve que si c'est bien fait, il y a pas de raison de s'y opposer plus que si c'était fait en documentaire ou en film. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de vous exprimer, mais j'ai du mal à vraiment. Comprendre
ouais, moi j'en ai un.
L'opposition par principe, ouais, dis-moi Dani.
J'en ai un et il est assez fort et je trouve que, ok oui, alors effectivement si c'est bien représenté et que c'est équilibré, pourquoi pas, mais j'ai du mal à imaginer en fait, tu vois, moi, quand ça a commencé à faire du buzz, j'ai regardé un peu, il y a eu, on estime qu'il y a eu plusieurs centaines de civils morts. Comment est-ce que tu peux montrer un équilibre des forces dans un jeu vidéo en disant « Ouais, je suis le gentil soldat américain qui vient libérer du méchant oppresseur irakien pour libérer le peuple », en disant « Voilà, bah, on a quand même tué 600 civils », selon des articles que j'ai lus. Hein. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, il y en a peut-être plus ou moins, on s'en fout. Mais comment est-ce que tu veux montrer ça et comment tu peux te dire « Voilà, bah, je vais jouer un personnage qui vient d'une armée étrangère dans un pays et bah, pas de bol, on va tuer plein de civils.
Bah, ça dépend comment c'est fait. Hein. Après, on pourrait parler de la guerre en elle-même, du fait que c'était un siège et puis que c'était une... Bon, il y a des différentes factions dans l'invasion, on va dire. C'était... Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va voir comment c'est fait. Peut-être qu'ils vont représenter ça de manière biaisée, c'est possible. Mais l'intention a l'air d'être effectivement de montrer ces problèmes-là aussi. Je ne sais pas, on n'a pas vu le jeu encore, mais... J'ai l'impression que ce n'est pas un jeu de guerre. J'ai l'impression que c'est... On vous montre comment se passait le quotidien des soldats à Fallujah et peut-être qu'il y aura effectivement des... Tu vois, que ça ne sera pas tout rose. D'ailleurs, ils ont dit on ne va pas vous mettre dans la peau de soldats américains, spécifiquement, je pense, pour éviter ce problème, tu vois, ce problème de perception. Bon, en même temps, ils étaient partis de la collection, donc j'imagine que c'est les quelques... Bon, bref, peu importe, mais... Tu vois, s'ils montrent les choses et les problèmes que pose ce genre d'action, c'est... Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas, mais ça pourrait.
Ouais, mais regarde ça ensuite d'un côté complètement mercantile. Donc, d'un côté, si tu veux faire une vraie représentation de l'horreur que ça a été... Ça donne pas super envie de jouer à un jeu vidéo comme ça. Ou alors, je pense que t'as peut-être un problème dans ta tête si t'as envie de jouer à ça. Et donc, ensuite, la question, c'est est-ce qu'il y a un objectif mercantile derrière? Et si oui, il n'y a pas d'équilibre à trouver. Tu peux pas faire, ou alors, c'est des génies derrière ça, hein, mais c'est difficile de faire une vision équilibrée de ce qui s'est passé là-bas en disant, voilà, on va jouer un soldat, qu'il soit américain ou pas, finalement, c'est pas trop grave, mais c'est pas très important. Et comment est-ce que tu vas arriver à démontrer les horreurs qui ont été faites là-dedans tout en laissant l'envie de jouer aux gens qui vont être dans la peau de ces personnages pour avoir quelque chose d'un peu équilibré? Je pas que ce soit possible.
Ouais, vas-y, Julie.
En fait, pour moi, ça dépend vraiment de l'ambition, en effet, comme tu dis, qu'ils ont derrière le jeu. Parce que si c'est fait pour être un jeu, entre guillemets, pour s'amuser et prendre du plaisir, pour moi, il n'y a aucun intérêt à le sortir. Si l'idée derrière, c'est de sensibiliser, de raconter justement ce qui s'est passé et de sensibiliser le public à ça, qui est un objectif complètement différent, et dans ce cas-là, on peut aussi se poser la question de est-ce que le jeu vidéo est l'outil pour faire ça, moi, ça me semblerait OK. Mais après, en effet, si c'est pour l'idée de faire un jeu vidéo où les gens passent du plaisir et s'amusent dessus, c'est presque malsain, quoi.
Je crois, oui, non, mais tu le dis, tu t'as très bien expliqué, mieux que je voulais le faire à l'instant, ça dépend vraiment de l'objectif. Et d'après, encore une fois, ce qu'on voit de la vidéo, l'idée, c'est pas de s'amuser. J'ai pas l'impression que, de la même manière que tu vois, il y a des films sur différentes guerres, que ça soit, je sais pas, la Deuxième Guerre ou la guerre du Vietnam ou ce genre de choses, dont l'idée est pas d'amuser les spectateurs. Pareil avec des documentaires. Quand tu parles de l'aspect mercantile, effectivement, Dani, on peut le comprendre, mais il y a des films qui ne sont pas drôles du tout, pas enjoyable du tout, mais qui font de l'argent, tu vois, et qui parlent de ces sujets graves. Est-ce que tu as la même réserve dessus, sur les films?
Non, mais ce n'est pas du tout pareil. Regarde, dans jeux vidéo, il y a jeu. Et, oui, et je pense que c'est une chose de dire voilà, regardez ce documentaire où allez, on va atteindre Godwin, hein, mais Hitler a fait toutes ses erreurs, machin. C'est une chose, mais un jeu vidéo où tu dis voilà, bah c'est moi qui vais jouer Hitler et qui vais faire mon Civ 2, mon Civ 6 Hitler, j'envisage même pas cette possibilité là. Et je vois ça un peu de la même manière en fait, comme quelque chose d'extrême. Parce que dans un film ou dans une série, t'es complètement passif et tu absorbes des informations, mais dans un jeu vidéo où t'es acteur, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que je trouve que les deux médias sont très très différents là-dessus.
Ouais. Ça risque d'être un débat sans fin, mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que tu peux, quand un jeu est bien fait, tu peux être spectateur justement d'événements, et ça peut même avoir un impact plus important pour apprendre des choses et sensibiliser à certaines causes. Mais voilà, faut pas que tu joues le grand méchant et que tu t'amuses à tuer tout le monde. Mais il y a plein de jeux comme ça qui sont très narratifs et très visuels, où tu as de l'interaction qui fait que tu es vachement plus plongé dans l'histoire et qui font que tu vas apprendre énormément, mais qui te mettent pas non plus dans une position malsaine, quoi.
Non, mais de toute façon, ce qui peut être intéressant, tu vois, dans un jeu comme ça qui pourrait être fait, c'est d'avoir toutes les perspectives. T'as le soldat américain, t'as l'insurgé irakien, t'as le civil. Et tu vois, avoir trois routes différentes ou scénarios qui montrent les perspectives de chacun, ça peut effectivement apporter quelque chose de différent. Mais
à voir si c'est ce qu'ils vont faire.
Curieux de voir comment ils vont traiter ça. Voilà, exactement.
Ouais. Il faut que l'exécution soit bonne, quoi.
On est d'accord. Bon, bah écoutez, on attendra de voir effectivement ce que donne le jeu en lui-même. Je pense que tu as aussi mis un doigt sur un point important, c'est qu'on dit que c'est un jeu vidéo. C'est déjà le cas parfois. Le terme jeu n'est pas tout à fait adapté dans certains cas, et peut-être que là, ça le sera encore moins. Mais moi, je suis plutôt du côté de... Enfin, du côté... Je suis plutôt de l'avis de Julie, mais... Tout repose sur la manière dont le jeu va, enfin, dans le titre, dans l'expérience interactive va se passer au final, quoi. C'est un truc.
Et ça peut marcher, tu vois, si justement on met de côté le côté mercantile et qu'il y a en fait une vraie volonté d'apprendre quelque chose. Mais si c'est pour vendre des millions de jeux, c'est difficile à vendre.
Bah, non, mais après, bah ça, on ne sait pas quelle est l'intention, mais sur ce point, je ne suis pas d'accord. Il y a plein de films, il y a plein de documentaires, il y a plein de livres qui sont écrits sur des sujets difficiles, qui sont vendus, qui font de l'argent, et ça ne veut pas dire que c'est forcément quelque chose qui est traité avec une intention d'entertainment et légèreté, tu vois. On peut tout à fait faire quelque chose de commercial, avec une intention commerciale, mais qui soit fait sérieusement et encore heureux. Sur ce point, je ne suis pas d'accord, moi.
Mais bon, ouais, ensuite, on ça en veut pas dire que... quelques mois.
Ouais, ensuite, ça ne veut pas dire qu'eux vont faire ça bien. Hein. Ça se trouve, ils vont faire ça de manière totalement mais orientée.
Je suis d'accord avec toi, mais je pense que les réalités en fait, du business, du fait que bah, tu as beaucoup de gens qui travaillent dans ce jeu, qui ont besoin d'argent, qui ont besoin d'être rémunérés, etc., je pense que ça donne un équilibre aussi qui est... peu favorable pour ce jeu. Mais bon, ensuite, on verra, je me tromperai peut-être. Hein.
Ouais, mais tu sais, c'est peut-être une des premières fois où on aura un truc, effectivement, qui utilisera le média jeu vidéo de manière non ludique, quoi. Bon, pardon, Julie, on te laisse le mot de la fin. Tu voulais dire quelque chose et puis on va conclure.
Non, moi, je crois que j'ai tout dit.
D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, donc, on verra. La sortie est prévue pour cette année, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on verra ce que ça donne à ce moment. Je suis sûr qu'on en reparlera. Et dernière chose, Netflix a encore chopé les droits d'une série basée sur les jeux vidéo. Et en l'occurrence, c'est Dota, avec une série animée qui s'appellera Dota Dragon's Blood. Donc, on verra ce que ça donne là encore. Il y aura peut-être des choses enthousiasmantes qui sortiront de tout ça. On arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. Avant de se quitter, évidemment, tous les deux, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ? Julie, où es-tu ?
Alors moi, c'est sur Twitter et sur Twitter.
Julie Jeanniot, on mettra ton lien vers, le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Dany, où es-tu ?
Et moi, bah, c'est exactement la même chose, c'est Twitter, et un tout petit peu d'Instagram, mais j'ai pas posté depuis des lustres parce que je suis pas sorti. Donc, voilà.
Twitter, très bien. Note Dany sur Twitter, on mettra aussi le lien dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous savez que vous avez la chaîne YouTube, youtube.com/NotePatrick, à laquelle vous pouvez vous abonner. Vous avez le Discord auquel vous pouvez participer pour parler des derniers épisodes de mes podcasts, dont Super Laser Punch, où on parle de Marvel. On parlait de fans de Marvel tout à l'heure. Et bah, Super Laser Punch est là pour vous, pour décortiquer le dernier épisode de WandaVision chaque semaine. Et puis tout ça est sur notepatrick.com. Il y a tous les liens sur notepatrick.com, c'est super simple. Et enfin, le Patreon, patreon.com/rdvjeu, pour soutenir l'émission. Là aussi, le lien est dans les notes de l'émission. Pas d'after show aujourd'hui parce que le petit est malade, donc je vais aller m'en occuper un petit peu aussi. Ma femme c'est comme je le dis souvent, c'est une super héroïne, mais il faut aussi que je l'aide un minimum. Donc je vous fais des gros bisous à tous. Et non, Dany, c'est pas Super Leather Punch, c'est Super Laser Punch. Laser, comme un laser.
C'est dommage parce que le point de cuir, le coup de point de cuir, ça aurait été pas mal.
Écoute, je ne veux pas savoir ce qui se passe dans l'intimité de ta chambre à coucher. Et nous allons donc arrêter cet épisode ici. Merci à tous, à la prochaine.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.